Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show de vent avec Nicolas Marié. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Et bonjour Léo.
Bonjour Vanessa.
T'as vu, on n'est pas seul dans le studio aujourd'hui.
Et oui, on est beaucoup.
On a du beau monde. Hein. Je te présente Joël Attard, les fiches de Monsieur Cinéma. Bonjour Joël.
Bonjour, enchanté Léo.
Enchanté.
Et aussi Louis-Marie Solaire de Radio Présence.
Bonjour Léo.
Et bienvenue.
Je dis pas bonjour à Vanessa parce que je la connais.
Voilà, t'as vu un peu bizutage encore.
C'est honteux.
J'ai pas fini, je crois. Ça fait 4 ans que je les connais, mais je suis toujours bizutée. Non, mais c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous, les garçons, surtout pour parler d'un grand monsieur, Nicolas Marié.
Oui, c'est un merci à toi de nous avoir invités, parce que c'est vrai que c'est chaque fois qu'on a l'opportunité de discuter avec ceux qui ont constitué notre passion, c'est-à-dire les acteurs, on est ravis, on saute dessus comme la foi sur le monde.
Hein. Oui, et puis avec un acteur comme Nicolas Marié, c'est un pur bonheur. En fait, on espère que ça va l'être, on le souhaite ardemment, mais s'il bégaye comme l'avocat de 9 mois ferme, le film d'Albert Dupontel, ça risque d'être laborieux. Mais non, mais j'essaye d'être drôle, mais je ne le suis pas comme il l'est, lui.
Comme je veux rester copain avec toi, tu es drôle.
Merci.
Eh bien, on va voir ça tout de suite parce qu'on va l'appeler. On est très heureux d'avoir aujourd'hui Nicolas Marié avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors Nicolas, dans les studios, je ne suis pas seule. J'ai avec moi Joël Attard, des fiches de Monsieur Cinéma.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et Louis-Marie Solaire, de Radio Présence.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Je vais laisser la parole à Louis-Marie Solaire.
Ah, c'est difficile de commencer avec vous, Nicolas. Enfin, je dis difficile d'être le premier, mais pas avec vous, parce que vous êtes un comédien, un acteur. Je sais pas comment il faut dire, d'ailleurs. Ça peut être une question. Qu'est-ce que vous préférez qu'on vous dise de vous, que vous êtes comédien ou acteur, ou les deux?
Oh, il y a Delon qui fait une différence entre les acteurs et les comédiens.
C'est pour ça que je vous pose la question. Delon fait la différence.
Ouais. Non,
le faites-vous.
C'est pas faux non plus. On parle plus d'un comédien quand il s'agit de théâtre, parce qu'en fait, l'expression, on va dire, est plus ample, plus volumineuse au théâtre, faut passer le 10e rang. Tandis que quand on parle d'acteur, c'est plus proche, effectivement, du cinéma ou de la télévision. On vous filme en gros plan, et dans ces cas-là, l'expression a moins d'importance. La caméra, elle filme la pensée. Donc, si on peut faire une différence, voilà, un acteur, c'est peut-être quelque chose de plus intime en termes d'expression, et le comédien, c'est plus large, encore une fois, pour passer le 10e rang, quoi.
Alors, dans votre carrière, extraordinaire, vous êtes passé donc du théâtre au cinéma, mais aussi à la télé, vous avez fait de la post-synchronisation, c'est assez extraordinaire. Ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est justement passer par tous ces médiums, tous ces médias, plutôt, hein. Utilisons le pluriel.
Moi, j'ai pas trop choisi. En fait, j'ai commencé par le théâtre parce que c'était là, je prenais des cours de théâtre, et puis j'ai rencontré Elise Moon, Muriel Robin. On a monté une troupe de théâtre ensemble il y a quand même très 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 longtemps maintenant. Et puis après, les choses, elles se sont faites d'elles-mêmes. Et puis moi, j'aime bien varier les supports. Faire toujours la même chose, ça m'embête un peu. Faire toujours du théâtre, ça m'ennuie un peu. Ou faire toujours du cinéma ou de la télé, ça m'ennuie un peu. J'adore faire du doublage, j'adore le théâtre, j'adore la télé, j'adore le cinéma. Donc, je fais tout ça en même temps. Ce qui fait que je touche du bois, mais j'ai jamais cherché de travail dans ma vie, en fait. J'en ai toujours eu trop, finalement. C'est peut-être parce que j'ai multiplié les supports, ouais, c'est possible.
Bonjour Nicolas. Un de vos acteurs fétiches, c'est Harry Bore. Et je suis content, ouais, justement de pouvoir évoquer sur cette station de radio cet immense acteur qui était considéré comme l'un des meilleurs au monde, Harry Bor, qui était de, avec l'envergure d'un Rému, mais avec une facette beaucoup plus difficile à lire que Rému. Rému, c'était quand même des rôles très marqués, mais j'allais dire un peu binaire, tandis que Harry Bor, il avait une carrière vraiment incroyable et méconnue au jour d'aujourd'hui. Comment vous avez accroché avec cet immense acteur qu'était Harry Bor?
Écoutez, moi, c'est un acteur qui, quand j'étais môme, me fascinait complètement. Et d'ailleurs, si on le regarde encore aujourd'hui, la différence avec Rému, c'est que Rému était dans un registre comique. Harry Bor était dans un registre beaucoup, beaucoup plus large. Et surtout, un registre d'émotions absolument extraordinaire. Et moi, quand j'étais môme, cet acteur me fascinait complètement. Et puis après, quand j'ai grandi, j'ai appris comment il était mort, enfin, la fin de sa vie.
Oui.
Alors je sais pas si on en parle là ou si c'est ça a du sens ou pas pour vous, mais moi ça avait rajouté à l'émotion que j'ai en regardant et en écoutant cet acteur. Bon, il s'appelle Harry Bor et pendant la guerre, il a travaillé pour la Continental qui était une production française mais sous drapeau allemand. Et Goebbels, à un moment, s'est renseigné pour savoir, mais ce Harry Bor, c'est juif. Hein. Et peut-être. En 1942, ils l'ont arrêté. Il s'est retrouvé, alors je crois que c'est à Fresnes, pendant 6 mois, pour se rendre compte finalement qu'il n'était pas juif. Il aurait été juif, ça aurait été la même injustice, hein, on est bien d'accord. Et donc il est resté à Fresnes 6 mois, il a perdu 40 kilos, il est rentré chez lui, 6 mois après il est mort. Simplement, c'est pour moi, ça a été... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, ça reste très personnel, mais j'ai des grands-parents qui ont été en camp de concentration, etc. Donc, si vous voulez, tout ça m'a touché particulièrement. Et je ne peux plus voir un film de Bor sans penser à sa mort. Et au-delà de ça, encore une fois, c'est dans le jeu, c'était un acteur qui, à l'époque, était révolutionnaire dans la vérité de son expression. Vous pouvez passer tous les films de Bor aujourd'hui. Il est, comment dirais-je, aussi vrai. Parce qu'à l'époque, dans les années 30, 40, il y avait quand même beaucoup d'expressions. Et dans les années 30, on sortait du muet qui était dans les années 20, etc. Sur l'expression, ils étaient quand même très, très expressionnistes. Et lui, pas du tout. Et encore une fois, si vous passez des films de Bor aujourd'hui, et que vous passez, je ne sais pas, des films français, des films américains, d'aujourd'hui, la vérité de jeu d'Harry Bor est au moins aussi vraie que ne l'est aujourd'hui. Il était très précurseur sur le jeu. C'était vraiment un acteur extraordinaire.
Quel était votre film favori avec Harry Bor? Les Misérables, peut-être?
Oh oui, Les Misérables, il y a eu Beethoven. Il y en a eu plein.
L'assassinat du Père Noël?
Oui.
Pardon?
L'assassinat du Père Noël?
Oui, bien sûr.
Oh, c'était un drame pour moi, l'assassinat du Père Noël.
Comment
le Père Noël peut-il mourir?
Absolument, mais c'est juste, mais oui. Mais donc, dans tous ces registres-là, encore une fois, c'était un acteur redoutable et qui, moi, me touchait infiniment. Voilà.
Vous parliez tout à l'heure de votre famille qui avait été aussi qui avait fait l'objet de camps. C'est vrai, c'est que cette histoire de votre grand-père, je crois, qui avait récupéré les plantes des murs de l'Atlantique, un peu comme Bourville dans le film.
Oui.
Non, c'est mon père.
Votre père.
C'est mon père hein, qui habitait à Versailles, qui faisait partie d'un réseau des résistances qui s'appelait Mithridate. Et enfin, je vous passe les détails. Il parlait couramment l'allemand et il était à coquiner avec un réfugié autrichien qui lui travaillait à la mairie de Versailles et qui lui était donc aussi complètement bilingue. Et mon père, lui, est allé piquer effectivement les plans du mur de l'Atlantique au château de la Mais. Le château de la Mais à Versailles, c'était le château justement qui avait les archives des Allemands. Alors à l'époque, c'était très simple. Il allait piquer les dossiers et puis dans le bistrot du coin, sa sœur, donc ma tante, recopier ça sur du carbone, etc., et puis aller les remettre. Et puis, alors ensuite, là aussi, je vous passe les détails, mais avec ce réfugié autrichien, il trafiquait, avec d'autres, les listes du STO, où ils allaient prévenir les gens qui ouais. devaient partir pour le STO. Mais ça leur a coûté très cher, puisque beaucoup ont été... ils ont mis le feu à tout le service du STO, et les Allemands ont compris que c'était manigancé, etc. On fait des recherches, et tous ceux qui étaient liés à ce service-là, à la mairie de Versailles, ont été déportés. Mais mon père, lui, alors, ça a été plus, lui, ça a été plus grave encore. Lui, il a été, puisqu'ils se sont rendus compte et ils ont fini par savoir que c'était lui qui avait piqué les plans du mur de l'Atlantique. Donc, ils sont allés chercher, en fait, ma grand-mère et mon grand-père, donc ses parents, et ma tante, et ont fait le chantage à mon père en lui disant, si vous ne vous rendez pas, eh bien, on ne vous rendra pas vos parents. Et le grand-père a atterri à Buchenwald, et la grand-mère et la tantine ont atterri à Rendsburg. Alors, ils sont revenus tous les trois. Le grand-père est revenu en avion, il pesait 32 kilos. Mon père ne l'a pas reconnu quand il est allé chercher à l'hôtel Dieu. Oui, vous me posez la question, je suis désolé, là, ça fait très étalage personnel.
Non, mais c'est, on vous pose des questions par intérêt, parce que c'est fascinant, parce que quelque part, Louis-Marie, vous disiez tout à l'heure que vous aviez une carrière en forme d'éventail. Mais il manque la réalisation, parce que l'histoire de votre vie, elle ferait aussi l'objet d'un magnifique film. Et puis, vous savez... Oh. Oui, pardon. Ouais.
Non, pas la mienne, celle de mon père.
Ah oui, mais de facto.
Celle de mon père. Pardon?
De fait, ça devient la vôtre. Et puis, ouais. Vous savez, il y a une transition aussi incroyable, parce que tout à l'heure, j'évoquais le mur de l'Atlantique. Le mur de l'Atlantique, ouais. C'est aussi un film avec Bourvil, mais dans film avec Bourvil, il y a aussi un autre acteur sur lequel vous avez flashé, c'est Jean Poiret, et avec Jean Poiret, vous avez fait le zèbre.
Oui, bien sûr. Bon, ça, c'était un petit truc, mais on avait surtout joué avant, et c'était pour ça qu'il m'avait appelé. Il m'avait appelé comment? Oui, le personnage qui m'avait appelé le clair de lune. Il faisait un clair pour lui, et il m'avait appelé de lune. Donc, je faisais le clair de lune. Ah ouais, c'était un type charmant, mais on avait fait 6 mois ensemble avant, au Palais Royal, une pièce qui s'appelait Rumeur. Dont je me souviens plus de l'auteur, mais où c'était un souvenir absolument délicieux avec Jean Poiret, un regret infini qu'il soit mort de la manière dont il est mort. Là aussi, c'est con comme la lune. Hein, je résume. j'y vais ou pas?
Oh, mais vous, soyons-vous.
Donc Jean Poiret, on fait 6 mois les Hommes de l'Ombre, les 6 mois Rumeur. Il enchaîne avec le tournage de son film et quelques mois après, donc il est en train de le boucler pratiquement quasiment et il se sent pas bien. D'ailleurs moi quand j'avais vu, il était gris, je le sentais pas bien, il était pas en forme. Il va trouver son toubib le vendredi et le toubib lui dit écoutez, vous êtes pas bien, je vous garde. Et demain, à l'hôpital, on voit exactement ce qu'on doit faire. Lui n'avait pas vu sa femme et son fils depuis une éternité. Donc, il dit, écoutez, non, laissez-moi au moins le week-end, je ne les ai pas vus. Bon, d'accord. Et puis, il le laisse rentrer chez lui. Il est mort le samedi matin. Oh. Ah ouais, ça, c'est terrible. Jean, ça a été terrible, cette histoire. Enfin, donc, voilà. Alors, bon, donc, vous me parlez de Poiret. Oui, attends, Poiret, Céron, c'était quand même des acteurs là aussi tout à fait exceptionnels. Ils avaient une complicité tous les deux et une vérité de jeu folle. Bah si on prend Céreau, alors là aussi, moi j'ai Aribord, mais je peux avoir Céreau aussi. Il y a une vidéo qui tourne sur YouTube, je ne sais plus où, enfin bon, où c'est Pierre Tchernia qui interview Céreau. Et qui joue un personnage complètement fou, je sais pas quoi, il a rendez-vous avec le médecin, enfin. Et c'est un délire de Céreau. Il y a Tchernia qui peut pas s'empêcher de rigoler. Céreau lui-même se prend un fou rire. Encore une fois, je me demande si, enfin, je sais plus à quel endroit c'est, mais si vous mettez Tchernia, Céreau, vous tomberez sur cet extrait-là. Et là, c'est une, l'illustration de ce que peut être un acteur d'exception à travers le jeu que nous propose Michel Céreau. Enfin, c'était vraiment très, très extraordinaire.
Alors, Rumeur, c'est de Neil Simon, mis en scène par Pierre Mondy.
Voilà, c'est ça. Ouais, à l'époque, il y avait Bondy, et puis il y avait Jean Poiret, et, il y avait une très belle distribution. Il y avait Eva Darlan, il y avait, Jean-Paul Muel, il y avait, Mike Janssen, c'était une belle distribution, puis c'est un très, très beau souvenir. C'est un très beau souvenir, ouais. Ah, Jean Poiret était, un type exceptionnel. Et lui, il faisait comme moi, c'est-à-dire qu'avant de monter sur scène, lui, il entretenait la chaudière. C'est-à-dire, il marchait comme un fou, à droite, à gauche, il marchait, en rythme. Alors que Pierre Bondy, lui, était beaucoup plus cool. Lui, il avait une table dans les coulisses, et en fait, il disait, il préparait la prochaine mise en scène, il cherchait des textes pour une prochaine mise en scène. Donc lui, on lui avait installé une petite table en coulisses, et puis pendant que la pièce se déroulait, ben, il lisait les pièces. Alors quelquefois, on lui disait, Pierre, c'est à toi. Alors il se précipitait, il pouvait garder ses lunettes, on dit, tes lunettes. Alors il jetait ses lunettes sur la table, et puis il se précipitait sur scène. Déjà, c'était très bons souvenirs, c'était des gens charmants, et puis, ouais, c'était des très beaux souvenirs.
On parle théâtre, on parle cinéma, mais on parle doublage avec toi et le carton Super Mario Bros, le film où tu donnes la voix à Cranky Kong. Attention, est-ce que tu avais joué à Super Mario Bros ou à Donkey Kong au jeu vidéo?
Pas du tout. Je crois pas du tout. Non. Sur le jeu vidéo, non, pas du tout, non. Non. Mais j'y connais rien, là. Alors là, il faut me pardonner, mais je connais pas du tout cet univers-là. Donc, j'ai appris que Super Mario, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y en a un autre qui est de la même production, je crois. C'est Migration, qui est en train de sortir.
Tout à fait.
Là.
Où tu fais gougou. Oui,
je fais un gourou. Un canard gourou. Un canard gourou, je crois.
C'est ça, un canard gourou.
C'est ça.
Au paradis, dans un beau paradis, mais il faut se méfier des paradis.
Oui, enfin, je sais pas parce que j'ai pas vu le film.
Tu l'as pas vu encore? Ah, magnifique, somptueux.
Mais ça fait partie là aussi, encore une fois, Super Mario ou Migration ou d'autres, le doublage en général. Moi, j'adore ça, ça m'amuse beaucoup. Contrairement à ce que peuvent dire certains, il y a une part de jeu de chacun, même des Français qui doublent des acteurs étrangers qui sont à l'image. Il y a une part de jeu qui est très importante de la part des acteurs qui doublent. S'il n'y avait pas ce jeu-là, ce serait ce qu'on appelle de l'eau tiède, ça n'aurait aucun intérêt. Mais non, quand on double un acteur, on peut rendre ça extrêmement vivant.
Nicolas Marié, pardon, je suis pris, j'étais suspendu à vos lèvres, mais je les lâche, hein, il vaut mieux que vous parliez et moi je me tais, mais qu'est-ce qui vous a donné envie, bon, on le sent avec tout ce que vous avez raconté, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire l'acteur? On comprend avec tout ce que vous avez décrit, mais quand vous étiez enfant?
Écoutez, c'est terrible parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir voulu faire autre chose. Alors depuis que j'ai 10 ans, je mets une robe de chambre avec des bottes et puis je faisais le singe devant ma glace, machin. Donc je me souviens pas d'avoir fait autre chose. Si j'avais pas fait ce métier-là, ça aurait été terrible parce que je sais vraiment pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Et du coup, ne faisant que ça, j'aurais même pas pu me reconvertir. Donc c'est difficile. Non, encore une fois, il y a des films qui ont été très forts pour moi. Il y en a un en particulier, c'est L'Armée des Ombres.
Ah oui.
C'est un film de Melville. et dans l'armée, alors là encore une fois, c'est une histoire de guerre et c'est une histoire de résistance. Et je crois, au bout du compte, avec le recul, que en voyant ces films-là, avec mon père, évidemment, qui était toujours là, je me demande si j'ai pas eu envie quelque part de rentrer dans l'écran. Et d'aller aussi, moi aussi, faire comme mon père et rentrer dans ces films de guerre, de résistance. Et que voilà, donc au bout du compte, j'ai fait l'acteur. Avec d'autres personnages qui n'avaient rien à voir avec la résistance. Mais voilà, ce film-là, je me souviens, ce film-là m'avait infiniment marqué, Et d'ailleurs, je me souviens, il y a une anecdote que j'ai apprise après. C'est que Melville n'était pas un type commode du tout.
Ah non.
Et dans L'Armée des Ombres, entre autres, il y a Ventura, il y a Signoret,
Paul Meurice.
Meurice, là, qui est dans son frigo, entre guillemets, c'est un endroit qui est pas difficile à chauffer. Enfin, ça, voilà. Et en fait, Melville était un type assez, qui n'était pas commode. Et Ventura, après, quand on lui a demandé, quelques années après, Monsieur Ventura, Comment s'est passé le tournage de l'Armée des Ombres? Il y a eu un grand temps, parce qu'ils s'entendaient pas du tout avec Melville, il y a eu un grand temps, et Ventura a simplement dit « rude ».
Et puis Melville, il avait une tête hein, aussi. Hein.
Ah bah oui, non, le type était particulier. Mais bon, c'était un créateur. Et puis vous savez, quand on est réalisateur, il faut être un chef de guerre. Hein. C'est compliqué un tournage. Donc, ouais, mais non. Bon, ceci dit, il y a quand même des réalisateurs qui sont des gens très cool et très sympas. Mais encore une fois, Melville n'avait pas une bonne réputation. Mais là aussi, il y a un document. Alors, je ne sais plus pourquoi c'était. Pour quel film? C'était un film de Melville et c'était Belmondo qui faisait partie de la distribution. Et il y a l'ingénieur du son n'a pas éteint son micro. Il y a une gueulante absolument surréaliste de Belmondo qui allume Melville parce que je sais pas quoi. Belmondo attend depuis 3 heures et insulte Melville. Et dit, ah, foutez-moi, faites attendre, machin, etc. Mais là aussi, si vous mettez sur Internet Belmondo Melville, bande sonore, et vous allez avoir la gueulante monumentale de Belmondo. Et là aussi, c'est un document un peu exceptionnel parce que Belmondo, on l'attend pas du tout dans ce registre-là. C'est un type toujours très très cool, très sympa. Et là, il n'était pas content du tout, Bebel.
je vais vous raconter une anecdote, Nicolas. Nougaro à Toulouse qui avait l'habitude de temps en temps d'avoir des soirées plus que arrosées à Paris et un jour, il arrive, il débarque chez lui à 4 ou 5 heures du matin, et donc chez son épouse, et il amène, il demande à son ami Melville de le précéder avec les baguettes de pain. Et donc Melville arrive chez Madame Nougaro avec son Stetson sur la tête, ses lunettes de soleil qui ne quittaient jamais même la nuit. Et imaginez à 5 heures du matin, Melville, quand Madame Nougaro, Sylvie, la première épouse de Nougaro, ouvre la porte, elle se retrouve nez à nez avec Melville. Ben, je peux vous dire qu'elle s'est demandé si c'était pas un cauchemar.
Ouais. Le type était très très particulier.
Ah oui.
En plus, il vivait dans son studio. Le studio était à Saint-Ouen. Le studio a flambé à un moment. Enfin, c'était un personnage qui avait un parcours particulier. Encore une fois, c'était un type pas commode, mais qui a fait quand même des films magnifiques.
Tu parlais tout à l'heure de l'importance du réalisateur. C'est aussi l'importance des rencontres avec Albert Dupontel.
Ouais. Albert, oui, bien sûr, ça fait 40 ans qu'on se connaît. C'est-à-dire, en fait, moi, Albert, je l'ai rencontré alors que il rentrait dans une pièce de théâtre pour la première fois. C'était la première fois qu'il mettait les pieds sur un plateau de théâtre. Alors, c'était une production à l'époque qui n'était pas très ambitieuse. En fait, c'était des matinées classiques et c'était l'Avare qu'on faisait à la Porte Saint-Martin. Au théâtre de la Porte Saint-Martin, moi je faisais l'Avare, je faisais Harpagon, et le metteur en scène avait trouvé une idée géniale, entre guillemets, trois points de suspension, c'était de rajouter à Harpagon deux sbires. C'est-à-dire des types qui étaient là, qui ne disaient rien, mais qui étaient là. Et donc il y avait Albert, et puis un autre acteur qui s'appelait, je ne sais plus très bien comment, Marc Fayet peut-être, enfin je ne sais plus exactement son nom, enfin peu importe. Et donc Albert, lui, faisait, mon garde du corps, un de mes deux gardes du corps d'Harpagon. Et bon, la mise en scène du metteur en scène n'était pas géniale, donc on a très vite sympathisé tous les deux. Et puis après ça, bah finalement, on s'est jamais quitté. Il m'avait appelé quand il a fait son premier court-métrage.
Désiré.
Avant ça, il avait commencé à démarrer très sérieusement. Il faisait du one-man show un peu partout. Il y avait un monde fou qui venait le voir. Avec ses premières économies de ce décollage-là, il avait donc financé son premier court-métrage qui, à l'époque, avait... C'était une somme importante hein, pour un petit gars qui commence et qui en tout cas fait ses premières armes. Il était lui en 3e ou 4e ou 5e année de médecine, je sais plus, et il a tout quitté donc pour faire ça. Et puis voilà. Et puis au fil de ces films, donc le premier c'était effectivement Désiré, c'était un court métrage qui durait 25 minutes. Et puis après, il y a eu Bernie et puis les autres. Et puis à chaque fois, il m'a toujours appelé. Le seul que j'ai pas fait avec lui, c'est un qu'il n'a pas écrit lui-même, mais dont il a simplement adapté le texte de Pierre Lemaître. C'était Au revoir là-haut. Mais parce que en parallèle, moi, je faisais Les Hommes de l'ombre. Ah, avec Volkovitch, avec Carole Bouquet, et du coup, il a été impossible de libérer des dates pour aller travailler avec Albert sur Au revoir là-haut. Donc voilà, non, dans tous ces films, et puis donc dans le dernier, là, dans Second Tour, qui est sorti le 25 octobre.
Un sacré caméraman foot-foot, on peut le dire.
C'est ça, alors que je n'y connais rien.
C'est vrai, en plus, c'est vrai.
Oui. Non, j'y connais rien, moi. J'ai découvert ce que c'était que l'histoire du 4-4-2 ou du 3-3-4, là. Je n'y connais rien, mais rien, c'est rien. Et j'ai appris, après le tournage, que finalement, toutes les références que je donne dans le Second Tour sont des références bidons.
Oui.
Vous savez, quand je lis sur les lèvres de de Lior, ou je dis à Mademoiselle Pauvre que je lis sur les lèvres, et je donne l'exemple de je ne sais plus quel match de foot, entre Bucarest et je sais plus quoi, je me souviens plus du texte de l'époque, et je sors la phrase qu'avait sorti je ne sais plus quel footballeur, et pour faire comprendre, donc je lisais très bien sur les lèvres. Et j'étais persuadé que la référence que je donnais, que Albert m'avait donnée, donc que je disais dans le texte, était une vraie référence. Alors je sais plus, c'était, je sais plus, deux villes qui s'étaient affrontées, je sais plus lesquelles. Et j'étais persuadé que tout ça était vrai. Puis il y a d'autres références.
Ah, il y en a plein, oui.
Oui, voilà. Et finalement, et après, Albert me dit, mais non, non, non. Tout ça, c'est faux, c'est moi qui l'ai inventé. Donc, voilà, que vous savez la fragilité des acteurs. Donc, voilà.
Est-ce que vous avez des personnages favoris à interpréter? Où va votre préférence, votre attirance dans les personnages à
non,
jouer?
J'ai pas de préférence particulière. Il se trouve que les gens qui vous regardent et qui vous voient manquent quelquefois un peu d'imagination et ils vous font, ils veulent pas prendre de risques, donc ils vous font répéter ce qu'ils ont déjà vu dans d'autres choses. Donc globalement, si vous voulez, dans tout ce qui est moi, les directeurs d'entreprise, les politiques, dans Les Hommes de l'ombre, je faisais le président de la République. Il y a une se dégage sans doute de moi, c'est peut-être mon côté versaillais, un côté bien propre sur lui et d'autorité. Quand je fais la stagiaire, je fais un procureur qui est sympa, mais qui là aussi est un peu poète. Donc voilà, en général, c'est des personnages d'autorité. Mais moi maintenant, en vieillissant, ceci dit, moi maintenant, je vais aller tourner avec Danny Boone et Fleurot, un truc qui s'appellera Regarde, et là je fais un papy. Donc c'est un autre registre. Mais donc voilà, en règle générale, donc c'est ce qu'on me fait beaucoup jouer. L'intérêt avec Albert, c'est justement que lui me fait jouer des choses qu'on me confie assez rarement. Des choses un peu fous, un peu folles, un peu décalées, l'aveugle dans ben Adieu oui. les cons,
qui fait le gay,
blague
qui
du foot, fait le alors que moi j'y connais rien en foot, celui avant Adieu les cons.
Neuf mois ferme,
je faisais un avocat bègue. Ah bon. Donc si vous voulez, alors dans même celui d'avant, c'était le vilain, il m'avait fait faire un vieux toubib alcoolo. Donc voilà, il n'y a que lui qui m'ont confié ces personnages complètement déjantés. Donc j'y vais toujours avec plaisir, avec Albert, ça me fait sortir complètement de ma zone de confort. Pour un acteur, c'est idéal.
Si vous étiez, justement, si, tout à l'heure j'ai évoqué le fait que vous puissiez un jour vous mettre à la réalisation, mais si vous étiez un réalisateur, quel rôle vous vous confieriez?
Ben d'abord, je m'en confierais pas.
Quand
on est, c'est déjà suffisamment compliqué, il y a quelqu'un comme Albert pour arriver à faire les deux. Mais je peux vous dire que c'est compliqué, hein. Et puis avec l'âge, ça devient extrêmement difficile, même pour lui, tu vois. Donc attends, lui prépare tellement ses films qu'au bout du compte, ça fonctionne sans. Mais ça reste un tournage, c'est quelque chose d'extrêmement fatigant. Donc moi, si j'avais admettons que j'accepte de m'amuser à jouer dans le film que je réaliserais, je sais pas. C'est pas ma préoccupation, moi, principale, ça, en tout cas le type de personnage. Moi, ce qui compte quand je lis des scénars, c'est est-ce que j'ai du grain à moudre dedans. C'est-à-dire, est-ce que dans ce qu'on me propose, j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir exister, et que je fais pas de la figuration, c'est pas le bon mot, mais vous savez, on m'a proposé là, je dirais pas quoi, mais une série vachement, pour TF1, machin, etc., très bien, beaucoup d'argent, etc., mais ce qu'on me propose là encore, un personnage d'autorité, etc., mais qui ne véhicule rien en termes d'action et qui ne fait pas bouger les lignes, donc ça m'ennuie, c'est un mec qui n'apporte que de l'info, etc., ça m'ennuie, donc je dis non, sur des trucs comme ça, je dis non.
Mais
donc encore une fois, j'ai pas de préférence particulière. Si quelqu'un m'appelle pour jouer, un SDF sans dents, tout ce que vous voulez, qui traîne dans Paris ou ailleurs, j'accepterai avec plaisir. De la même manière, si on me fait jouer un notaire, ça m'intéresse pas. Et si c'est un notaire véreux et qui fait des tas de saloperies, quand je parle de grain à moudre, c'est de ça dont je parle.
Oui. Mais en parlant de grain à moudre, et j'insiste, excusez-moi Nicolas, mais ouais. Quel personnage réel, existant ou personnage historique vous aimeriez interpréter ? Là, peut-être
historique.
Oui, historique, par exemple.
Ouais. Mais de contemporain ?
Ce que vous voulez, contemporain ou pas.
Hein. Oh, il y a Clémenceau, parce que Clémenceau, là aussi, donc, c'est une histoire de guerre, mais en plus, il y a un truc qui vient de sortir, là, sur la rencontre entre Clémenceau et Monet, qui était écrit par, comment elle s'appelle, par une fille de la rédaction de France 2, un truc qui était très bien, et Clémenceau, c'est intéressant, mais il y a eu plusieurs films sur Clémenceau.
On en a fait une émission, d'ailleurs.
Ah oui?
Oui, j'avais eu la réalisatrice avec nous.
Lévi qui a fait le téléfilm là qui est passé.
Oui, c'est ça, La Force d'aimer, Clémenceau, La Force
voilà,
d'aimer.
Voilà, c'est ça. Alors c'est voilà, des personnages comme ça, c'est intéressant quoi. Alors c'est une adaptation qui a été faite par les noms m'échappent. Et c'était
Lorraine Lévi.
Non, ça, alors Lorraine
c'est la réalisatrice que j'avais voilà, eue.
Voilà, qui a pris Arditi et comment il s'appelle, hein, qui est fait Monet. On connaît que lui. Peu importe, donc on connaît que lui.
François Martouret, il fait Monet.
Il a pris Martouret. Alors je sais pas, j'ai pas vu, hein, mais moi j'avais été pressenti au départ, c'était pas Lorraine Lévi qui devait le réaliser, c'était encore une fois l'adaptateur,
c'est d'après le récit, Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir, de Nathalie Saint-Cricq.
Oui, de Saint-Cricq, mais l'adaptateur. Vous avez l'adaptateur sous les yeux?
Je regarde. Je triche.
Ouais, vous l'avez?
Attends. On est tous en train de chercher, je crois. J'ai l'impression.
peu importe, c'est pas grave. Mais parce que cet adaptateur, en fait, est aussi réalisateur. J'avais fait un mot passant avec lui. Et en fait, lui...
C'est quoi l'adaptateur? C'est le scénariste, non?
Pardon?
Oui.
Le scénariste,
c'est Jacques Santamaria.
Voilà, Santamaria, voilà. Jacques m'en avait parlé, m'avait parlé de ça et il voulait que je fasse Monet. Mais apparemment, la direction de France 2 ne lui a pas donné la réalisation. Et c'est Lorraine Lévi avec qui moi j'ai fait un Knock. J'ai fait un parcellet dans Knock. Hein. Et Lorraine avait déjà dans sa tête sa distribution. Elle parlait pas de Martouret à l'époque. C'est Arditi hein, qui a fait Clémenceau là.
Oui.
Pierre Arditi.
Non, mais il pensait à un autre personnage que Martouret. Ah, je me souviens plus. Oh, j'ai honte. Mais bon, il faut pas dire. donc il était question que je fasse Monet là-dedans. Donc, mais ça, là aussi, alors on parle de grain à moudre. Là, il y avait du grain à moudre. Et encore une fois, alors pour revenir à votre question du départ, oui, un personnage comme Clémenceau est là, par exemple, sur le choix qui a été fait de la période que Saint-Cric a retenu. C'est une période aussi particulièrement émouvante, quoi. Clémenceau, à la fin de sa vie, il rencontre cette beaucoup plus jeune femme qui a fait plus 50 ans, 45 ans, et lui, on a pas loin de 80 à ce moment-là. Et c'est une rencontre. C'est là où il dit vous m'aiderez à mourir et je vous aiderai
à vivre. Je vous aiderai à vivre et vous m'aiderez à mourir.
Voilà, c'est ça. C'est quand même une magnifique réplique, quoi. Et puis Clémenceau, oui, c'est moi, je mets plein de choses sur lui. Le personnage est passionnant. Donc oui, voilà, c'est des personnages qu'on aime jouer. Mandela.
Ah oui, quand même.
Personnage comme Mandela. Mais bon, ça va être difficile là. Un problème. Pour le jouer, mais voilà, c'est tous ces personnages-là, enfin tous ces personnages qui ont.
C'est parce que vous êtes trop jeune, en fait.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Qui ont jalonné l'histoire. Mais alors, ben, attends. Alors, si même c'est pas Mandela, on a bien compris pourquoi je pourrais pas le faire. Mais il y avait De Klerk. Oui. Qui était le président de l'époque. Alors là aussi, vous comprenez, écrire quelque chose avec une confrontation entre De Klerk et Mandela, ça, c'est des situations. Là, vous avez ce que j'appelle du grain à moudre. Il y a vraiment de quoi faire. Et là, ça aurait été passionnant de jouer à ces personnages-là. Mais encore une fois, des personnages passionnants, hein, il y en a beaucoup, hein, il y en a partout. Là, j'ai fait un téléfilm il y a quelques mois qui s'appelait Tout le monde ment.
Ah oui.
Qui est devenu, je crois, une série maintenant avec Vincent Elbaz. Et moi, j'ai fait le tout premier, qui en fait a été le pilote. Enfin, c'était considéré comme un téléfilm, mais c'est devenu un pilote puisque ils en font une série. Et là, en fait, c'est un groupe très officiel d'un procureur avec des flics un peu marginaux, mais qui sont chargés de mettre la main sur des grands décideurs ou des grands patrons qui se croient. Qui se croient en dehors des lois. Donc ça peut être des grands patrons de l'économie, mais ça peut être des hommes politiques, ça peut être... Voilà. Et là, on m'a fait jouer un grand patron qui va faire du chantage et qui finalement tue une petite, ou donne l'ordre de tuer une petite, et tout ce groupe-là va mettre la main sur lui. Bah, là, c'est complètement mon emploi. Faire ce genre de type bien propre sur lui, mais qui derrière ça est un enfoiré, pour moi c'est du pain béni. Et j'en garde un très bon souvenir. Ça a été fait il y a pas longtemps par une femme qui s'appelle Hélène Angel. Oui. Elle a fait du cinéma, et elle a fait un très joli téléfilm qui est très proche du cinéma en fait. Là on sait plus si c'est du cinéma ou de la télé.
Et en parlant de propre sur lui, vous avez quand même commencé Nicolas Marié en étant le jeune premier.
Oui, bien sûr, ah oui. J'avais horreur de ça.
Bah oui, mais vous étiez le jeune premier.
Non, mais oui, mais j'aimais pas ça du tout, moi, quand j'étais jeune. Moi, j'étais plutôt dans les arlequins. Mais comme j'étais un beau gosse, on me faisait jouer les Léandres, les Octaves de Molière, machin, etc. Et ça m'emmerdait souverainement. Parce qu'alors là, juste, il n'y a pas de grain à moudre. Si vous faites Valère dans l'avare, tout va bien. Mais si vous faites des jeunes premiers, c'est emmerdant comme tout, ça m'intéressait pas du tout. Donc, et c'est un peu pour ça aussi d'ailleurs que je suis parti créer cette troupe avec des amis, parce qu'en fait, quand on me demandait toujours pour jouer les imbéciles heureux et beaux. Donc ça m'embêtait un peu. Donc en revanche, quand c'est moi-même qui décidais des distributions, je me mettais plutôt dans les petits gars qui bougeaient, les arlequins, les choses comme ça.
Tu parlais tout à l'heure des personnages qui sont propres sur eux et qui sont des enfoirés. C'est pareil aussi dans le doublage avec la série The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, le commandant Joseph Lorenz.
Oui, oui. Bah ça, c'est un très bon souvenir aussi. C'était le d'abord, la série est vachement bien. Et alors, je crois qu'il va y avoir une suite. Hein,
on attend avec impatience. Hein, parce que moi, je veux savoir ce que tu fais d'autre. Hein. Parce que l'autre fois, t'avais pas menti. Hein. T'es horrible.
Voilà. Alors, exactement. Alors, lui, c'est vraiment double jeu permanent.
Arrête tes compliments.
Et mon acteur est très, très atypique et très intéressant.
Et Bradley Whitford, ouais.
Oui, et ça, c'est vraiment un acteur qu'on double avec bonheur. Bon, il y a aussi, comment il s'appelle?
Tim Roth.
Oui, Tim Roth. Ah, ouais. Tim Roth dans cette série qu'il avait faite. Oh là là,
Lie to Me.
Bah, Lie to Me, c'était un bonheur, cet acteur. C'est un acteur d'exception qui apporte des choses. Là, il y a du grain à moudre. Ah, mais lui, il a tout moulu, lui. C'est-à-dire, le grain à moudre, il s'est chargé de tout. Donc, nous, on n'a plus qu'à à rentrer dans ses chaussons et simplement, à créer du jeu à la française. Voilà, c'est tout. Mais lui, tout le travail est fait. Ah ouais, non, lui, à chaque fois que j'ai à le doubler, c'est un acteur d'exception. Et il y a quelques années, j'ai doublé, il avait fait une petite série très, très atypique. Oh là là, non, je ne me souviens pas du nom. Mais à chaque fois que je le vois, lui, il me surprend. C'est vraiment un acteur exceptionnel, ouais.
On va te voir bientôt dans la distribution du film Jeff Panaclock.
Ouais.
Monsieur Charles.
Vous avez vu ça? Oui, ça sort chez, oui, c'est ça. C'est même pas un gros con. C'est un grand bourgeois qui a un magnifique château et qui, en fait, est le papa, de Panaclock qui va se marier normalement avec ma fille. Mais, c'est compliqué. Ça va être compliqué pour lui. Et non, ça fait un joli souvenir. C'est Pef, c'est Martin Laval qui a tourné ça. Et on a tourné ça en région parisienne, dans le même château où on avait tourné Les Hommes de l'Ombre, d'ailleurs, à Rambouillet. C'est un joli souvenir, l'histoire est sympa. Et puis avec donc le petit marionnettiste, marionnettiste exceptionnel, ce ventriloque exceptionnel, Panaclock. Alors je sais pas son nom. En fait, c'est Panaclock inversé son nom au petit gars. Donc en fait, sa marionnette n'a plus besoin d'être tenue par lui. Elle va vivre toute seule, la marionnette. Donc le film est basé là-dessus. Bien évidemment, c'est lui qui fait la voix de son personnage.
Jean-Marc, oui.
Ouais, c'est ça. Et non. Alors je ne sais pas, je l'ai pas vu le film. Et le 17, je peux pas. Il y a une générale, enfin une avant-première. Je peux pas y aller parce que pour boucler notre boucle, je suis aux 100 ans de ma tantine qui donc a été en camp de concentration à Ravensbrück. C'est une belle revanche de la vie. Et on est avec ses enfants. Elle a eu 5 enfants après. Et elle a je sais pas combien de petits enfants, une espèce de folie. Et donc on va fêter ses 100 ans. Et donc, je ne peux pas aller à la première de Panaclock.
Ah bah non, voilà. Bon, ça c'est compréhensible, hein, carrément.
Non, j'espère, je pense que c'est un beau film, parce qu'en plus, réalisé par Pef, qui est en ce moment là au Théâtre de Paris avec, c'est Kaamelott. Oui. Ça s'appelle Kaamelott, je crois, c'est ça.
Il a adapté au théâtre la série.
C'est ça. C'est une comédie musicale absolument géniale et c'est un type très généreux, Pef, charmant, et c'est toujours un bonheur de travailler avec lui.
Jeff Panaclock, en fait, son vrai nom, c'est Damien Kolkanap.
Voilà, c'est ça. Alors voilà, parce que le nom que vous venez, je serai incapable de vous le raconter, mais de vous le redire. Mais donc, c'est Panaclock inversé. Voilà, c'est son nom.
Enfin,
c'est ça.
Ouais. Dites-moi, Nicolas, juste quand on a fait votre fiche de Monsieur Cinéma, puisque vous savez, c'est l'émanation de l'émission de Pierre Tchernia, on a indiqué que votre premier film, c'était Outre-mer. C'est vrai, on ne s'est pas trompé?
Si, c'est pas ça, c'est que je ne sais pas pourquoi on m'a mis ça, mais je n'ai jamais tourné ce film.
C'est la raison pour laquelle je voulais vous poser la question, justement.
Non. Alors, j'ai contacté, comment elle s'appelle, qui a
Brigitte Rouen.
Voilà, Brigitte Rouen, et on s'est un peu amusé tous les deux. Alors, en tout cas, sur ma bio, c'est le seul mystère de Wikipédia.
Ouais.
Et comme Wikipédia, pour faire changer quelque chose, c'est la croix et la bannière. Donc, je j'ai même pas insisté, quoi. Je laisse tomber, je m'en fous, c'est pas grave. Mais avec Brigitte Rouen, on s'est amusé à se parler de ça, et voilà. Non, j'étais pas là-dedans du tout.
Oui, c'est la raison pour laquelle je vous posais la question, parce que justement, ça me posait problème, justement, ce film-là.
Non, il faut plus que ça vous pose problème.
Donc, vous n'avez pas tourné, je suis content.
Je n'y étais pas.
Voilà. Okay. En tout cas, t'as des actualités, quelque chose qui va arriver ou pas?
Oui,
que tu peux parler, hein, bien sûr.
Non, tu sais, les acteurs, c'est toujours compliqué. Il faut éviter de dire les choses. Non, oui, normalement, Là, au début de 2024, je vais aller tourner avec Danny Boone et Audrey Fleurot un film qui s'appelle Regarde. C'est Emmanuel Poulain-Arnaud qui va tourner ça. Voilà. Donc j'ai ça sur le feu et puis voilà. J'ai passé un âge d'aller travailler tout le temps. Donc encore une fois, quand ça me plaît pas, tout ce que je dis, je refuse. Donc là, je suis plus cool, beaucoup plus cool.
Mais t'as bien raison.
que je ne l'ai été. Et dans tout le monde de la synchro, comme il y a eu la grève des acteurs américains liée à l'IA et puis des histoires de salaire, etc. Mais ça a duré, c'est une grève qui a duré un temps infini. Hein. Ah oui. Alors, j'ai quasi voulu le robinet de la synchro, c'est un peu tari en France, mais moi ça me gêne pas, ça me fait prendre l'air. Je pars dans ma campagne, j'ai une maison dans les Landes, donc je vais dans les Landes tranquillement.
T'en avais parlé justement de l'IA dans le documentaire Les artisans de la voix. Ils avaient posé la question, les petits jeunes, tu sais, qui avaient fait le documentaire.
D'accord.
Et c'est vrai que c'est une préoccupation d'actualité et.
Oui, je pense que c'est. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont arriver à en faire de cette IA. Moi, évidemment, j'ai du mal à croire qu'ils puissent artificiellement arriver à créer de la vie, de l'humeur dans un doublage. Pour moi, ça me semble impossible. Ou alors de faire de l'eau tiède. En revanche, pour tout ce qui est les documentaires et faire les voies de traduction qui, elles, ne demandent pas d'investissement et d'émotion, il est possible que l'IA prenne la place des acteurs. Vous savez, si vous traduisez, si vous donnez la traduction des acteurs un peu en retrait, mais qu'on entend bien l'acteur dans sa langue originale, enfin les personnes dont on fait le commentaire dans la version originale, c'est pas gênant d'être un peu atone. Mais encore une fois, si vous allez surfer sur un acteur dans une fiction, là vous pouvez pas vous permettre d'être atone, c'est pas possible. Donc encore une fois. Je me dis que, en revanche, pour le doublage, ça va être compliqué, l'intelligence artificielle naît aujourd'hui. Mais bon, d'un autre côté, c'est une vraie question intéressante. Hein. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer tout le monde? D'un autre côté, c'est génial s'ils continuent à payer tout le monde. Mais le problème, c'est qu'ils ne paieront pas tout le monde. Donc tout le monde va se retrouver au chômage. Hein.
C'est ça le problème.
C'est sympa. Hein. C'est une période sympa. Hein. C'est une période sympa en ce moment. Hein. Voilà. Écoutez, je sais pas, mais je sais qu'il y a une vraie inquiétude avec ça, ouais. Mais je comprends les acteurs. Je comprends l'inquiétude des acteurs. Et encore une fois, cette possibilité aussi de tout trafiquer sans qu'on s'en rende compte. Ça aussi, c'est terrifiant. Parce que pour les infos, les fakes qui peuvent circuler à droite à gauche, voilà, la drôle, c'est d'avoir foutu une doudoune au pape.
Ben oui.
Et personne ne s'était rendu compte de rien. Personne ne s'était rendu compte de rien. Et les gens s'en sont rendus compte après. Mais alors sur des choses plus graves, sur la possibilité de trafiquer des documents, et des vrais documents, là, vu ce qui se passe à la fois en Palestine et en Ukraine, vous imaginez les possibilités qu'il y a pour les services secrets de manipuler tout et n'importe quoi. Ah ouais, ça fait peur, on devient fou.
Ben, en tout cas, merci énormément, Nicolas, d'avoir été avec nous.
Ben non,
merci
vous êtes charmant,
pour ce
tous
moment. Écoutez, on a été ravis de cet échange, de cet entretien. Et on va vous guetter pour vos sorties prochaines.
Ben oui. Vous êtes gentil.
On va être à l'affût.
Et on va vous exprimer un souhait, beaucoup de grains à moudre.
Exactement. Oui.
Et peut-être une autre statuette, hein, qui sait.
Ah, allez savoir. Allez, à bientôt.
Merci beaucoup, Nicolas.
Salut.
Ah, quel super moment avec Nicolas Marié.
Oui, ce qui est intéressant, c'est aussi, je trouve, d'avoir l'envers du décor, c'est-à-dire que c'est un homme à multifacettes, Certes, le doublage, la voix, le théâtre, ses rôles au cinéma, mais aussi, moi, j'étais touché par l'authenticité de ce comédien, acteur, qui se la pète pas, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'est les vrais second rôles, entre guillemets, sans leur faire injure, du cinéma français. Il parlait tout à l'heure d'Harry Bore, mais je trouve que des Nicolas Marié au jour d'aujourd'hui, c'est aussi des comédiens d'excellente facture et qui sont nécessaires au cinéma français.
J'ai pas grand-chose à ajouter après ce que vient de dire Joël, surtout après l'introduction que j'ai faite en début d'émission, donc je préfère me taire. En tout cas, Nicolas Marié est un formidable acteur.
Oui, et puis on a passé un bon moment, on a beaucoup ri aussi.
Of course.
Ah ben oui.
Ben merci beaucoup les garçons d'être venus. Hein.
Ben écoute, nous chaque fois qu'il y a la lumière et que tu nous invites, on sera ravis de venir. Hein.
Surtout quand la lumière est rouge.
Le rouge est mis.
C'était Chaud Devant avec Nicolas Marié. J'étais accompagnée par Joël Attard des Fiches de Monsieur Cinéma et Louis-Marie Solaire de Radio Présence. N'hésitez pas à aller découvrir Nicolas Marié dans le doublage du film Migration en tant que Gougou ou bientôt dans Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now?